Ouais, je suis en colère. Et je crois surtout qu'il va falloir tirer les leçons de cet épisode-là, puisqu'en fait, face à une opportunité historique de mettre à bas les représentants de la bourgeoisie, quand vos alliés ne vont pas avec vous pour mener les étapes qui nous auraient permis d'obtenir ça, eh ben, il faut tirer des conclusions et il faut faire les choses autrement.
Ça tourne les camarades ? Ok, trop bien. Bon, salut Nicolas.
Salut.
On sort d'une conférence avec Aurore Quéclin. On est aussi à l'aboutissement du film qu'on a fait sur l'immersion du mouvement Bloquons-toi à Orléans.
Du pôle 45, on se dirige maintenant vers le rond-point. On voit donc qu'on fait des petits tours de rond-point apparemment.
Nous, on a fait partie du mouvement Bloquons-toi, on s'est investi en tant que militant. Je t'avoue qu'on est là, on est 2 mois après. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, dis donc. Moi, je pensais que là, on allait se voir, on allait avoir renversé le capitalisme, on allait voir. Macron serait au moins parti, tu vois.
Ouais, je suis d'accord.
C'est pas ce qui s'est passé. Comment toi, tu as vécu la chose de ton côté à Sainte, puisque tu as fait partie de.
En fait, je peux déjà en parler d'un point de vue personnel. Hein. C'est vrai que moi, j'y ai participé à travers mon magazine qui a appelé très tôt à rejoindre ce mouvement-là, qui l'a analysé, on a fait beaucoup d'articles stratégiques, on a fait des vidéos sur le sujet. Et puis moi, ensuite, dans ma ville, à Sainte, effectivement, je m'y suis investi très fortement. Et effectivement, je suis d'accord avec toi qu'entre l'été où on a vraiment senti que quelque chose était en train de se passer, parce que c'était un mouvement très populaire, très soutenu, hein, toutes les enquêtes d'opinion le disaient, et puis qui avait un gros potentiel et qui était très étendu sur l'ensemble du territoire, bah, il y avait cette idée qu'effectivement ça allait marquer le coup. Alors ça a marqué le coup en fait avant même que le mouvement ait lieu, puisque ça a entraîné la chute du gouvernement Bayrou.
Alors je vais vous dire moi pourquoi j'ai fait ça. C'est en effet inédit, mais parce que était en train de se passer dans le pays quelque chose dont j'ai conclu que ce mouvement m'empêcherait à coup sûr de conduire la politique nécessaire.
C'est pas mince, hein, je veux dire, d'obtenir la chute d'un gouvernement, c'est bien. Donc on a fait quand même une partie du taf. Ensuite, on a dit qu'on allait faire quelque chose, et on l'a fait. Et encore une fois, c'est 300 000 personnes partout en France qui se mobilisent sur des modes d'action quand même à bien des égards radicaux et risqués. C'est pas rien, ça dit beaucoup quand même de notre engagement collectif. Donc moi déjà, je salue ça, et je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas obtenu la chute de Macron qu'on doit pas se féliciter de ce qui a été fait. Pour moi, c'est un mouvement à amplifier, mais il se trouve qu'on a été très peu socialisés à ce type de mouvement. Donc je pense que vous, c'était pareil. La journée du 10, elle a été intense. On a été déstabilisés aussi, je pense, par la réponse policière qui a été très importante. Quand bien même elle avait été annoncée.
Nous, on nous a empêchés de circuler sur un rond-point, sur les passages piétons. Apparemment, ce monsieur de la police, il dit qu'on est dans l'entrave à la circulation en passant sur des passages piétons.
De toute façon, à partir du moment où je vous dis, je prime sur le code de la route. Je prends le dessus sur le code de la route. D'accord. Vous comprenez ?
Wow.
Et je bloque les gens. Ah, ça sert quand je suis pas là.
Et je trouve que c'est une assez belle illustration de ce qu'est le capitalisme et à quoi sert finalement la police.
Ils nous ont proposé une jolie amende de 800 euros.
Il a dit ça ?
Si, on a emprunté le passage piéton. Ouais.
Exactement, j'ai les mêmes échos à Bourges. Ils ont été pourchassés à peine, ils s'étaient retrouvés. Il y a eu des arrestations. Moi, dans la ville de Sainte, on a pu s'installer parce que je pense qu'on était plus nombreux que ce qu'ils imaginaient. Mais ça s'est joué à peu, honnêtement. Enfin, je le dis indirectement, le mouvement Bloquons-toi a pu en tout cas paralyser toute une partie de la ville, faire fermer le péage d'autoroute. Donc nos objectifs, en tout cas les objectifs qu'on prenait, ont été atteints, mais ça ne s'est pas fait sans difficulté. Et partout ailleurs sur le territoire, globalement, il y a eu ce type d'actions qui ont duré d'une heure à une journée. Donc c'est quand même très bien, hein, en tant que tel, c'est vraiment un mouvement très fort. Là, tu vois, on a l'impression qu'on fait du commentaire sportif. Ouais, mais voilà, belle performance.
Adversaire très fort.
Des équipes soudées, un bel esprit.
Et très respectable sur le terrain.
De camaraderie aussi.
Oui, de camaraderie, mais en même temps, une première étape. Et le problème de ce mouvement, c'est qu'il n'a pas duré, en fait. Et pourquoi il n'a pas duré ?
C'est la principale question.
On va faire une comparaison avec le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'était ça notre point de référence. Il se trouve que je suis revenu en arrière, j'ai regardé les archives un peu sur le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a pas du tout commencé pareil. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie n'était pas préparée. La bourgeoisie au début, quand elle a vu la sociologie du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire plutôt des indépendants, des artisans, des petits patrons, elle ne s'est pas méfiée. Elle s'est dit, c'est des gens, en fait, ils sont de notre côté, donc on va les laisser s'installer.
C'était anti-taxe aussi.
Et c'était anti-taxe, voilà. Donc en fait, ils pouvaient s'identifier. La bourgeoisie a cru qu'elle allait pouvoir faire un pont entre les revendications des Gilets jaunes et les siennes. Et on a même des éditocrates qui étaient là, moi je soutiens le mouvement des Gilets jaunes, Pascal Pro et tout. Et donc en fait l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont laissé le mouvement des Gilets jaunes s'installer à partir d'octobre sur des ronds-points et discuter entre eux. Et ça a créé ce que ça a créé, c'est-à-dire un mouvement quasi insurrectionnel qui a menacé l'intégrité de la République bourgeoise.
Arrêtez !
Et donc par conséquent, le 10 septembre, ils n'ont pas refait la même erreur, ils nous ont empêchés, ne serait-ce que de nous réunir. Et en ça, malheureusement, ça veut dire qu'ils s'adaptent. Et qu'ils nous ont empêchés de faire ce qui a rendu possible les Gilets jaunes dans le temps, c'est de créer vraiment des affinités, une solidarité, de créer de la communion entre les gens mobilisés et le reste de la population via des barrages filtrants, par exemple. Nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire à Saintes. Mais c'est-à-dire que ça, une matinée ne suffit pas pour créer ça. Et ils nous ont empêchés d'inscrire notre action dans le temps. Donc déjà, le premier problème, c'est celui de la répression, ça c'est sûr.
Il y a quand même eu quelque chose d'important, c'est le lien avec les syndicats. Ça, c'est majoritairement l'ensemble des débats ou des critiques qu'on a pu avoir en interne dans nos mouvements. C'est pourquoi les syndicats ne suivent pas. On a entendu Sophie Binet, je ne veux pas la chute d'Emmanuel Macron.
Nous, notre objectif, c'est pas de faire tomber Emmanuel Macron. On n'a rien contre lui.
Je te demande pardon.
Et nous, on ne veut pas la chute de ce gouvernement.
Je veux dialoguer, je veux être dans le dialogue social. On a eu Sophie Binet hier, justement, on a pu la voir. Ah. Elle nous a dit quoi? Elle nous a dit qu'on peut se contenter quand même d'avoir fait progresser la conscience des gens sur le partage des richesses, qu'on a quand même contraint des députés à voter des amendements ou ne pas voter telle ou telle loi. On est vraiment dans... J'évite de reculer de pas et je recule quand même d'un. Comment toi tu vois le rapport au syndicalisme et le rapport aux directions syndicales?
Là, la direction de la CGT a tenté de se justifier a posteriori, mais son action a été très catastrophique, hein, faut le dire.
L'intersyndicale, parce que c'était
l'intersyndicale, oui. Alors d'ailleurs, on peut même questionner la stratégie d'action d'intersyndicale. C'est-à-dire que ces syndicats se mettent ensemble, alors même qu'idéologiquement, en fait, ils sont très différents, voire même ils n'ont plus rien de commun. Et du coup, en fait, ils vont justifier leur recul et en disant oui, mais bon, on n'avait pas le choix, c'était l'intersyndicale.
Il n'aura pas échappé qu'on n'a pas l'ensemble des organisations syndicales n'ont pas le même positionnement vis-à-vis du 10 septembre et qu'on souhaitait avoir une initiative clairement identifiée sur des revendications sociales. Et l'ensemble des organisations ont répondu OK pour cette journée de mobilisation le 18 septembre.
Déjà, questionnons un peu cette stratégie. Hein. Si une alliance vous empêche d'agir, est-ce que faut-il conserver cette alliance? Ça, c'est une première chose. Ensuite, non, l'action elle a été très mauvaise puisque d'abord, il y a eu un dénigrement du mouvement du 10 septembre jusqu'au mois d'août, hein, y compris de la part de la direction de la CGT en disant on ne sait pas qui c'est peut-être l'extrême droite, etc.
Même langage que la bourgeoisie.
C'est évidemment encore totalement nébuleux et sur les modes d'action et sur les revendications. On est très vigilant sur les tentatives de noyautage et d'instrumentalisation de l'extrême droite qui, à certains endroits, essaye de développer des discours antisyndicaux.
Et puis en fait, ça s'est avéré entièrement faux. Hein. S'il y a bien un truc que le mouvement du 10 septembre n'était pas, c'était pas du tout un mouvement d'extrême droite. Il n'y en a pas une once. Hein. Donc ça, déjà, ça a été entièrement mensonger. Et donc, quelque part, il y a eu adoption de la propagande gouvernementale. Et ça, c'est grave hein, de ne pas se mettre à distance des éléments de langage de la bourgeoisie. Et puis ensuite, il y a eu autre chose grave. Ça a été de fixer la date du 18 septembre, donc a clairement dilué. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ont dit « Bon, bah, il y a le 10, on ne sait pas trop qui c'est risqué, mais il y a le 18 où ça ne sera peut-être pas efficace, mais au moins, on sait qui c'est et on sait ce qui va se passer. » Et clairement, ça a créé, à mon avis, ça a créé une baisse d'effectifs du 10 septembre. Et pire que ça, mais j'en parlerai après, ça a fait que nous autres, militants du mouvement Bloquons-Tout, je crois qu'un de nos torts, hein, ça a été de se reposer sur la date du 18. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais nous, on a dit, bon, après tout, pourquoi pas. Nous, on a fait notre truc. Le 18 septembre, c'est la date des syndicats. Allons-y aussi, réconcilions-nous.
Et parce qu'on a une confiance dans les syndicats, dans leurs forces. En tout cas, on espère qu'il va y avoir une grève générale.
Moi, je pense que c'est un mélange de... on avait une confiance et en même temps... c'était très fatigant comme mouvement et donc c'était bien pratique de se reposer sur une date. Voilà. Et en fait, bon, ça a été notre tort parce qu'en fait, alors qu'on avait réussi à poser notre propre agenda, ensuite on s'est aligné sur celui d'intersyndicale. Et l'intersyndicale, elle a fait quelque chose de très grave. Là encore, hein, c'est que non seulement elle a fait le 18 qui, en termes quantitatifs, a été un succès puisque c'est plus d'un million de manifestants. Donc en fait, un bon démarrage de mouvement social. Et au lieu de continuer, elle a fait ce truc complètement absurde, hein, qui était pour moi une stratégie perdante, explicitement et intentionnellement perdante, qui a été de dire on va fixer un ultimatum au gouvernement. Alors en plus, à l'époque, il n'y avait pas de gouvernement, pour lui dire écoutez-nous, ou bien, vous allez voir ce qui va se passer. Le gouvernement, face à ces adversaires-là, dit n'a rien dit du tout, n'a rien répondu. Résultat, Bah, on a perdu le timing, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé pendant 2 semaines. Et évidemment, quand il y a eu la prochaine date syndicale qui était le 3 octobre, bah, le chiffre a été en baisse, ce qui a permis à l'intersyndicale de justifier en faisant mourir ce mouvement social dans l'œuvre. Donc c'est grave parce qu'en fait, non mais c'est quand même grave parce qu'une intersyndicale, une direction syndicale, pour moi, leur objectif c'est de attiser les flammes de la conflictualité pour nous faire gagner des choses. Et là, au contraire, ils ont étouffé les braises. Et ça, c'est grave. Et ils l'ont fait, je dirais, de façon quasiment explicite et intentionnelle.
Alors qu'il y avait des partis politiques, notamment comme la France Insoumise, qui a tiré les leçons des Gilets jaunes, qui avaient peur aussi des Gilets jaunes, et qui s'est dit, on va pas faire la même bêtise, c'est qu'on va quand même appuyer le mouvement parce qu'on sait comment ça se construit et où est la force populaire, et finalement, oui, ça s'est pas fait du côté des syndicats.
Et ben, beaucoup de gens ont tiré les leçons, c'est-à-dire que même parmi des personnalités écologistes, même le parti écologiste, même des personnalités, on va dire, de la gauche institutionnelle, des influenceurs, des influenceuses, surtout pour celles que je connais, enfin, influenceuses, le terme peut sembler péjoratif, mais des gens dont la voix porte, ont appuyé le mouvement du 10 septembre, précisément parce qu'ils ont retenu les leçons d'histoire et que le dénigrement que la gauche avait eu à l'égard des Gilets jaunes lui a porté préjudice. Et plein de gens ont tiré les conclusions, mais pas ceux dont on avait le plus besoin finalement, parce que c'est ceux qui créent, qui ont quand même les ressources militantes à la base pour créer des mouvements sociaux, les grands syndicats, n'ont pas tiré les leçons, et je veux dire, n'ont pas voulu tirer les leçons. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, ils ont
peur de l'instabilité, en tout cas nous, c'est...
Ils ont peur de l'instabilité, et puis pour finir, la suite pour moi est parachève cet épisode calamiteux, c'est-à-dire que vous avez une crise institutionnelle inédite dans l'histoire de la 5e République.
La Macronie n'avait jamais été aussi fragile.
Elle n'a jamais été aussi fragilisée. Il y avait une impossibilité de résoudre une équation parlementaire. Il y avait vraiment une délégitimation totale, que ce soit de l'opinion publique, mais même de l'entourage même du président disait, bon, il est peut-être temps qu'il parte. C'est quand même ça qu'on a vécu.
Edouard Philippe et nous, Le Cornu, on s'est dit, le passage de Le Cornu, c'était lunaire pendant quelques jours. On s'est dit, mais là, ça y est, c'est la fin quand
mais
même.
Mais ça y est, c'est la fin.
Mais c'est revenu
et
comme
c'est,
avant.
Et c'est revenu. Et c'est revenu parce que bon, bah, les sociodémocrates via le PS ont en fait redonné une confiance au gouvernement, parce que les syndicats n'ont pas désavoué le gouvernement, se sont retirés du jeu alors qu'en fait c'était le moment où ils pouvaient avoir une voix déterminante. Et à la fin, ils ont même conforté par leur discours, hein, quand Sophie Binet dit « je veux pas la chute d'Emmanuel Macron », c'est grave parce qu'en fait la chute d'Emmanuel Macron nous permettait d'éviter d'avoir un budget catastrophique pour les travailleuses et travailleurs, les chômeurs, les chômeuses, enfin, c'est quand même ça qui s'est passé. Donc... ouais, je suis en colère et je crois surtout qu'il va falloir tirer les leçons de cet épisode-là, puisqu'en fait, face à une opportunité historique de mettre à bas les représentants de la bourgeoisie, quand vos alliés ne vont pas avec vous pour mener les étapes qui nous auraient permis d'obtenir ça, eh ben, il faut tirer des conclusions et il faut faire les choses autrement.
Une dernière question pour toi, c'est que nous, on s'appelle Info Gaucho. On était content de se retrouver entre gauchistes dans le mouvement Bleu Contour. Est-ce que ça n'a pas été aussi l'écueil, une analyse qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on était, il y avait une forme d'entre-soi. Et contrairement aux Gilets jaunes, il y avait quand même les Gilets jaunes plus de sensibilité politique, en tout cas une force qu'on pourrait qualifier plus brute. Peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, enfin voilà, c'est onéreux. Il y avait une forme d'entre-soi entre militants aussi. Comment on peut progresser, quoi faire?
En termes de sociologie, le mouvement du 10 septembre, c'était la sociologie des travailleuses et des travailleurs de gauche, c'est-à-dire plutôt dans des métiers du social, du public et du culturel. Et c'est légitime parce que ces secteurs-là souffrent. Les gens voient vraiment leur niveau de vie être très attaqué, leurs conditions de travail être très attaquées. Donc il n'y a pas d'illégitimité, si tu veux, à ce que ces gens-là se soient retrouvés ensemble. Ils avaient tous les droits d'y être. Par contre, c'est vrai que ce qui est problématique, c'est que en fait, ça crée des effets d'entre-soi. Et les effets d'entre-soi, c'est très difficile à combattre. Je pense qu'il faut à la fois faut regarder le problème en face et en même temps il faut être indulgent avec soi-même. C'est-à-dire qu'en fait ce qui fait l'entre-soi, c'est simplement que tu vas aller sur tel rond-point, telle manifestation parce que tu connais quelqu'un qui y va. Et donc du coup, quand c'est un premier groupe qui commence à se mobiliser, et clairement en fait au cours de l'été on a vu que c'était plutôt des groupes de gauche traditionnels, ce qui n'est pas un problème, mais qui ont commencé à appeler, bah, du coup leur entourage leur ont suivi et leur entourage c'est des gens qui leur ressemblent. Et c'est comme ça en fait qu'on crée l'entre-soi. C'est pas parce qu'on a voulu exclure. Mais voilà, il y aurait peut-être un travail à faire là-dessus. Peut-être que je sais que les critiques que j'ai beaucoup entendues, c'est que les assemblées générales, par exemple, elles ont été faites sur des formes très traditionnelles des assemblées générales de gauche, avec un certain sectarisme.
Ça a tué une certaine énergie.
Et ça a tué une certaine énergie. Oui, bah moi je pense que les assemblées générales, c'est moment un peu d'arrêt, hein, parce qu'en fait, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est que les gens ils y aillent. Hein, et en fait, l'assemblée générale. C'est un peu, bon, là, pour moi, un mode d'action de la gauche traditionnelle qui, quand on ne le travaille pas assez bien, c'est-à-dire quand on fait en sorte que ça soit un moment d'incapacitation où en fait les gens se sentent puissants collectivement et qu'au contraire, c'est plutôt un moment de palabre où ce sont ceux qui ont l'habitude de prendre la parole en public qui ont le devant de la scène. Parce que, et ceux qui ont l'habitude de prendre la parole en public, sur le plan socio-professionnel, ça va être plutôt des enseignants, ça va être plutôt des gens qui sont dans les métiers de la parole. Et je ne les dénigre pas, mais du coup, forcément, ils vont plutôt avoir tendance à accaparer la parole et ça va être les militants très expérimentés. Et donc quand il y a cette dynamique-là qui s'installe, il est très dur de revenir en arrière. Et je pense que l'échec de ce mouvement-là, l'échec relatif de ce mouvement-là, il ne faut pas évidemment tout mettre sur le compte de l'intersyndicale parce qu'encore une fois, c'est une force importante, mais avant tout, ce qui va faire la force d'un mouvement social, c'est notre capacité en tant qu'individu, en tant que collectif, à en changer les règles du jeu. Et je pense qu'effectivement, peut-être que la façon dont ces AG ont été organisés ont été un petit peu des erreurs qui ont un peu empêché la massification de ce mouvement-là, même si encore une fois, 300 000 personnes dans toutes les villes de France qui se mettent en place sur des modes d'action radicales de blocage, c'est une belle performance, mais on aurait pu faire mieux.
Je voulais quand même rajouter une dernière analyse aussi personnelle, c'est qu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une opposition de l'extrême droite et d'influenceurs aussi. Il y a eu un blocage aussi de certaines parties de la population sur leur intégration à ce mouvement-là via les réseaux sociaux qui ont aussi diabolisé le mouvement en disant c'est un mouvement de gauchistes, etc. Et je pense que ça peut être intéressant de voir aussi les outils des réseaux.
Quelque part, on a tiré les leçons des gilets jaunes et moi j'ai l'impression que quelque part, par moment, ça a été un peu contre-productif. Alors tu vas me dire, on ne sait pas ce qu'on veut, mais par exemple, quand la France Insoumise appelle à rejoindre le mouvement du 10 septembre...
On a entendu beaucoup, pour aller dans ton sens, que c'était instrumentalisé par Mélenchon.
Oui, parce que d'ailleurs, moi je trouve qu'ils n'ont pas été top là-dessus, parce qu'au début, Mélenchon, sur une de ses notes de blog, a eu une analyse très fine de la situation. Il a dit, faut appeler à ce mouvement-là, mais il ne faut pas trop le crier sur les toits, parce qu'il ne faut pas que le mouvement soit coloré politiquement. Il avait tout à fait raison, c'était très fin de sa part. Et en fait, il y a eu un changement de ton une semaine avant le mouvement du 10 septembre. La France Insoumise a quand même instrumentalisé ce mouvement en disant « allez-y et ensuite votez pour la destitution de Macron ». Et en fait, pour moi, ils sont sortis de leur logique de mise en retrait qui était pertinent. Parce qu'effectivement, un mouvement comme ça, il a besoin de faire venir plein de gens différents, y compris des gens qui ne s'identifient pas à la France Insoumise. Et en fait, en s'impliquant trop, ils l'ont coloré un petit peu trop. Et comment dire, ça part d'une bonne intention, mais en fait, il faut être fin. Les mouvements sociaux, c'est une science délicate, quoi. Et je pense qu'on apprend tous de nos erreurs et qu'il va falloir aussi apprendre de cette erreur-là.
Merci Nicolas, t'as un dernier mot avant de finir ?
Un dernier mot pour en finir ? Je comprends qu'on soit déçus de ce qui s'est passé, mais il faut voir que dans l'histoire de la lutte des classes en France, ça a été une étape essentielle et qu'il faut s'appuyer sur cette étape, il faut la regarder en face, il faut avoir beaucoup de réflexivité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé et de passer au mouvement suivant sans tirer des conclusions. Ville par ville, regardons ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et faisons mieux la prochaine fois.
Merci Nicolas,
merci,
on continue la lutte et à la prochaine mobilisation. Je ne sais pas comment elle s'appellera, mais en tout cas, on essaiera d'être là et de donner de la force.
Avec plaisir.
À bientôt, salut.
À bientôt. J'adore le côté commentaire post-match, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Bon, alors, tactiquement.
C'est un très bon format, quoi. Voilà, on a tenté telle formation, ça n'a pas marché, mais bon, en face, il était pugnace. Hein.
Ouais, c'est vrai. Il faut revoir la tactique commande.
Oui, c'est ça, mais j'aurais dû avoir un accent un peu plus Didier Deschamps, tu vois.
Yes, he's a Giroud.